Vous écoutez, on lit pour vous.
Vers un nouveau test à domicile pour connaître son niveau de risque d'avoir un cancer du sein. Un texte de Catherine Desautels de la Presse canadienne, paru le 24 février 2025 dans Le Devoir. Dans le but de détecter le cancer du sein plus tôt chez les femmes présentant un risque accru de le développer, la Fondation Cancer du sein du Québec espère qu'un nouveau test, qu'elle qualifie de révolutionnaire, sera bientôt disponible dans les chaumières de la province. Le test est issu de l'étude Perspective, qui a évalué une nouvelle stratégie de dépistage qui tient compte du risque de chaque femme. L'outil, mis au point dans le cadre de l'étude, combine une analyse de salive à un questionnaire pour calculer le risque de cancer du sein de façon personnalisée. Le dit questionnaire prend en compte des facteurs tels que les antécédents familiaux, la densité mammaire, l'exposition aux hormones et l'indice de masse corporelle. Après avoir été étudié cliniquement auprès d'environ 4000 femmes, l'outil est prêt à être déployé pour la population. La Fondation Cancer du sein du Québec s'attend à ce que le test soit homologué d'ici la fin de l'année 2025. Après cette étape, l'outil devra d'abord faire l'objet d'un projet pilote dans une région avant qu'il soit disponible à l'ensemble du Québec. Actuellement, l'accès au dépistage du cancer du sein repose uniquement sur le critère de l'âge. Lorsqu'elles atteignent 50 ans, les Québécoises sont invitées à passer une mammographie de dépistage tous les 2 ans. Or, un cancer sur 6 est détecté chez les femmes de moins de 50 ans. Plus on dépiste un cancer du sein tôt, au stade 0, moins il y a de risques qu'on en meure. Le taux de survie d'un cancer détecté à un stade 1, c'est entre 98 et 100 %, tandis qu'à un stade 4, c'est 23 %. On pense que ça fait une différence et que cet outil nous permettrait, de façon équitable, de détecter des cancers du sein plus tôt. Fait valoir Karine Iseux-Hyperciel, présidente directrice générale de la Fondation Cancer du sein du Québec. Une fois qu'elles connaissent leurs facteurs de risque, les femmes devront quand même passer une mammographie pour savoir s'il y a un cancer ou pas. Madame Hyperciel ajoute qu'il s'agit d'un choix de vouloir connaître son niveau de risque ou pas. C'est comme le programme de dépistage en cancer du sein. Il n'y a que 63 % de la population qui y participe, alors qu'elles y ont droit, dit-elle. Notre programme de dépistage en cancer du sein, il fonctionne bien, à partir de 50 jusqu'à 74 ans, tient à préciser Mme Hyperciel. On ne veut pas changer le mode de dépistage. On veut donner l'accessibilité à cet outil pour que les femmes puissent connaître leur risque de cancer et puissent prendre des décisions éclairées plus tôt. Mieux utiliser les ressources. Le cancer du sein est la deuxième principale cause de décès par cancer chez les Canadiennes. Pour 2024, la Société canadienne du cancer estime que 30 500 femmes ont reçu un diagnostic de cancer, ce qui représente le quart de tous les nouveaux cas de cancer chez les femmes. Une fois le test salivaire effectué et le questionnaire rempli, une femme pourra savoir si elle a un risque faible, intermédiaire ou élevé de développer un cancer du sein. À partir de là, selon son résultat, elle pourra être suivie plus étroitement par son médecin aller se faire dépister régulièrement ou faire d'autres examens. Par exemple, une imagerie par résonance magnétique, IRM, si elle a une importante densité mammaire. Le test a le potentiel d'éviter des mammectomies et de sauver des vies. Un stade plus tôt, ça veut dire des interventions moins invasives, qu'on se remet plus rapidement pour retourner à notre vie la plus normale possible, soutient Mme Hypersiel. Il s'agit aussi d'une économie pour le système de santé. Un cancer à un stade zéro, c'est moins de 15 000 $ pour le traiter, tandis qu'un stade 4, c'est 370 000 $. Le système serait gagnant sur toute la ligne, en plus de sauver des vies, souligne la PDG. Elle indique par ailleurs qu'une pénurie de techniciens en imagerie rend l'accès difficile aux mammographies, qui peut prendre des mois dans certaines régions. Le nouveau test permettrait de prioriser les cas ayant un facteur de risque élevé. Quand on a un risque élevé de cancer du sein, c'est à peu près sûr que, dans notre vie, on va avoir un cancer du sein. Le nerf de la guerre, c'est de le trouver le plus tôt possible pour passer à autre chose et ne pas en mourir, explique Mme Hypersiel. La Fondation Cancer du sein du Québec aimerait qu'à partir de 30 ans, les femmes du Québec aient accès à leur score de risque en cancer du sein. Mme Hypersiel affirme que les instances gouvernementales sont bien au fait du projet Perspective, mais elle veut les talonner pour s'assurer qu'elles iront de l'avant avec le déploiement du test. C'était vers un nouveau test à domicile pour connaître son niveau de risque d'avoir un cancer du sein. Un texte de Catherine Desautels de la Presse canadienne, paru le 24 février 2025 dans Le Devoir.
Un passage à niveau sera construit dans le secteur du campus 1000. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 5 février 2025 dans Le Devoir. Après de longues négociations avec le Canadien Pacifique, CP, la Ville de Montréal aménagera finalement un passage à niveau dans le secteur du Campus 1000 afin que les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite puissent traverser le chemin de fer qui sépare le quartier Parc Extension et l'arrondissement d'Outremont. Les travaux devraient commencer au mois de mars 2025 et se terminer à l'automne. Ce passage à niveau représente une étape de plus pour désenclaver le quartier Parc Extension, bordé par une autoroute au nord, une clôture à l'ouest et un chemin de fer à l'est et au sud, souligne Laurence Lavigne-Lalonde, mairesse de Villeray-Saint-Michel Parc Extension. Avec le passage à niveau inauguré en 2021 dans le secteur de la rue Auguelvé et celui-ci, on vient de créer deux nouvelles façons d'entrer et de sortir de manière sécuritaire du quartier. Ça change vraiment la donne pour les citoyens, croit-elle. Lors de sa réunion hebdomadaire du mercredi 5 février 2025, le comité exécutif sera appelé à approuver l'entente intervenue avec le CP. Les élus devront aussi approuver l'octroi d'un contrat aux entreprises de construction Ventec de 2,8 millions de dollars pour l'aménagement du passage pour piétons et cyclistes. Le futur passage à niveau reliera les avenues de l'Épée et de la gare de triage dans Outremont, alors que le site de l'ancienne gare de triage se développe avec l'implantation du Campus 1000 de l'Université de Montréal et la construction de logements sur le site. C'est la ville qui assume en totalité la facture de ce passage à niveau, dont l'inauguration est prévue pour l'automne 2025. Une longue saga. La réalisation de ce projet fait suite à de longues discussions avec le CP. En 2012, un rapport commandé par la Ville de Montréal avait recommandé l'aménagement de 6 passages à niveau le long des voies du CP dans différents secteurs de la métropole, afin de sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes. De nombreuses ouvertures dans les clôtures permettaient alors d'identifier les endroits les plus empruntés clandestinement par les citoyens. En 2011, une citoyenne qui avait reçu un constat d'infraction de 146 $ d'un policier du CP pour s'être aventurée près des rails avait même contesté l'amende reçue. Elle avait cependant été déboutée par la Cour du Québec. La Ville de Montréal a par la suite entrepris des négociations avec le CP pour 5 passages à niveau. En 2017, faute d'entente, elle avait demandé l'intervention de l'Office des transports du Canada, OTC. Celui-ci a donné son accord pour 3 d'entre eux, dont celui dans l'axe de l'avenue de l'Épée et un autre dans le secteur de la rue Ogilvy. Ce dernier a d'ailleurs été inauguré en 2021. L'OTC avait toutefois conclu que 2 passages souhaités par la ville pour relier le plateau Mont-Royal et Rosemont-la-Petite-Patrie dans l'axe des rues Henri-Julien et Saint-Dominique étaient problématiques. L'organisme estimait que ces 2 passages auraient des incidences négatives importantes sur les activités ferroviaires. Il recommandait plutôt l'aménagement de tunnels ou de passerelles au-dessus des voies, une solution jugée coûteuse et peu efficace par la ville. Les relations entre la ville et le CP ont toujours été difficiles, rappelle l'ancien conseiller municipal Richard Ryan, qui a longtemps plaidé en faveur de tels passages à niveau, particulièrement dans l'axe de la rue Henri-Julien, le plus fréquenté. Pourtant, on voyait que des passages à niveau se faisaient ailleurs avec le Canadien national, notamment à Boucherville, où il y en a plusieurs, relate-t-il. L'ancien élu déplore que les communautés avoisinantes, qui voient leur territoire traversé par une voie ferrée, ne soient généralement pas intégrées à la discussion. Dans la décision de l'OTC, c'est davantage l'impact sur les activités économiques qui est tenu en compte et non pas les relations avec les communautés. Une vraie médiation aurait dû tenir compte de ces 2 aspects. C'était « Un passage à niveau sera construit dans le secteur du Campus 1000 », un texte de Jeanne Corriveau, paru le 5 février 2025 dans Le Devoir.
La persévérance fait toute la différence. Une chronique de Marisol Saint-Onge, parue le 16 février 2025 dans La Tribune. Chaque année, les journées de la persévérance scolaire permettent de valoriser la poursuite des études et sensibilisent les élèves à l'importance de ne jamais abandonner, malgré les difficultés. La 21e édition de l'événement a pris fin le jour de la Saint-Valentin. Mais, tout comme l'amour qu'un couple doit cultiver à l'année, il est primordial de soutenir les efforts des jeunes à chaque journée. Les enfants sont continuellement bombardés d'exemples de réussite sur les réseaux sociaux. Selon le Réseau québécois pour la réussite éducative, qui chapeaute les journées de la persévérance scolaire, il est excellent d'avoir des modèles positifs et inspirants. Néanmoins, il s'avère que le format concis, peu importe la plateforme empruntée, occulte trop souvent les difficultés derrière les exploits partagés. Certains croiraient à tort que, si le succès n'est pas instantané, il vaut mieux tout lâcher. Alors que c'est tout l'inverse qui doit être véhiculé. Les erreurs, les échecs et les revers font immanquablement partie du parcours du combattant. Si l'on souhaite transmettre la valeur de la persévérance, il est nécessaire de montrer que, lorsqu'on tombe, on peut juste se relever. Ça tombe bien, car j'ai moi-même chuté plusieurs fois, au sens propre comme au figuré. Artiste peintre de métier, mère de deux jeunes enfants et amoureuse du même homme depuis des années, mon monde s'est écroulé à l'âge de 34 ans. Amputée aux deux bras et aux deux jambes, après avoir vécu la violence d'une septicémie, j'ai réellement cru que plus jamais je n'allais pouvoir m'accomplir à nouveau. Je ne savais pas encore que la vie peut être surprenante quand on fait preuve de persévérance. Malgré mon handicap, j'ai repris la peinture avec l'aide de mes pinces myoélectriques et je marche grâce à mes jambes tout autant robotiques. J'ai continué d'être la mère que je voulais être pour mes enfants et l'amour dans notre couple est demeuré intact. Nous avons d'ailleurs célébré notre 32e Saint-Valentin. En plus des toiles que je peins, je suis conférencière, illustratrice, auteur et, comme vous le savez déjà en lisant ces lignes, je suis aussi chroniqueuse. C'est vrai que si une personne vient d'être amputée et qu'elle m'aperçoit avec l'aisance et les aptitudes que j'ai aujourd'hui, ça peut être décourageant. Surtout si elle s'imagine que ça s'est fait en un claquement de doigts. Petite et grande réussite. Sauf que je n'ai plus de doigts, et sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, on peut dire que j'ai travaillé d'arrache-pied. Pour arriver à retrouver la femme que j'étais et celle que je souhaitais devenir, j'ai trimé dur. Avant d'accepter ma nouvelle vie de personne handicapée, j'ai beaucoup pleuré. Avant de retrouver ma verticalité de bipède, j'ai entraîné mon corps à se muscler. Avant d'arriver à mettre un pied artificiel devant l'autre, avec assurance, je suis tombée. Avant de peindre avec un pinceau, j'ai échappé un paquet de trucs. Avant d'arriver à réussir, j'ai échoué. Et bien qu'aujourd'hui, j'ai envie d'affirmer haut et fort que ma persévérance a fait toute la différence, il me reste encore des défis à relever au quotidien. La vie n'est pas un long fleuve tranquille ou un chemin linéaire. Il y a toujours des détours. Mais ce sont justement ces jalons bordant nos parcours qui nous apportent les enseignements dont on a besoin pour poursuivre notre route. La persévérance, tant à l'école que dans la vie de tous les jours, s'appuie sur les objectifs qu'on s'est fixés, sur le travail effectué et sur les gens positifs et à l'écoute qui nous entourent. Si, en plus, on a la chance d'y ajouter une passion pour nous motiver, les petites et grandes réussites viendront d'elles-mêmes. Je crois que c'est la fierté d'avoir réussi à traverser les épreuves qui motive les partages sur les réseaux sociaux. Les journées de la persévérance scolaire sont une bonne occasion de rappeler aux étudiants qu'il n'existe pas de succès sans travail ni sacrifice, mais aussi sans échec. Une leçon à retenir toute l'année. C'était « La persévérance fait toute la différence », une chronique de Marisol Saint-Onge, paru le 16 février 2025 dans La Tribune.
La force ou la grandeur? Un texte d'Yvon Rivard, paru le 15 février 2025 dans Le Devoir. S'il est un mérite qu'on doit reconnaître à Donald Trump, c'est celui de nous avoir imposé pendant des mois un slogan dont nous ne nous sommes pas méfiés. Car la publicité nous a si bien habitués aux mots vides que nous en sommes venus à croire qu'ils sont insignifiants, inoffensifs. C'est cette erreur qui, insensiblement, fait de nous des consommateurs libres d'acheter ce qu'ils croient avoir choisi, de choisir démocratiquement pour les gouverner, qui leur a été vendu. Make America great again. Qui s'est demandé de quel droit Trump et les Américains pouvaient s'approprier le mot et le territoire de l'Amérique? Quelle était la grandeur qui aurait été perdue et comment la retrouver? Les mots vides, surtout ceux qui en appellent à des valeurs sans les définir, sont des chevaux de Troie. En eux se cachent les guerriers, sur eux s'appuie le règne de la force. Lorsque nous comprenons que la grandeur perdue était celle de l'impérialisme américain qui peut envahir un pays avec ou sans armes, lorsque l'empire invisible décrit par Matthieu Bellil devient visible, nous faisons le tour de notre maison pour y trouver de quoi la défendre. Puisque la partie visible de la guerre est de nature économique, on compte ses sous, ses ressources, on envoie le message à l'ennemi qu'on peut se passer de lui, qu'on ne se laissera pas faire, qu'on est fier. Tout cela est de bonne guerre, mais ne changera rien, car en utilisant les armes de l'ennemi, nous avons déjà perdu la guerre, non seulement parce que ces armes ne font pas le poids, mais parce que nous adoptons les valeurs décadentes de la culture dominante. La force de tout empire, écrit Simone Weil, c'est qu'il peut amener, chez ceux qu'il menace et chez ceux qu'il soumet, cette décomposition morale qui non seulement brise d'avance tout espoir de résistance effective, mais rompt brutalement et définitivement la continuité dans la vie spirituelle, lui substituant une mauvaise imitation de médiocre vainqueur. Que certains politiciens se soient empressés de vouloir relancer l'exploitation pétrolière ou s'inclinent devant le droit d'Amazon de fermer une usine en voie de syndicalisation, que d'autres voient dans le Trumpisme un mouvement nécessaire d'épuration culturelle et de défense de nos frontières est beaucoup plus inquiétant que la menace d'annexion. J'ai l'impression que c'est un appel à la force plutôt qu'à la grandeur qui mobilise le discours dominant de la résistance canadienne et québécoise. Et si cela traduit ce que nous sommes, c'est que nous sommes déjà annexés. La force ou la grandeur? Pour réfléchir à cette question du choix des armes dans la résistance à l'ennemi qui menace notre intégrité, j'invite les lecteurs à relire trois textes parus dans Le Devoir. Dans « Le sexe des anges », Christian Rioux ne parle pas de Trump, mais il s'y réfère implicitement en décrivant le danger que représente l'immigration massive et l'interculturalisme qui propose un équilibre subtil entre l'assimilation à la française et le multiculturalisme à la canadienne. Ces concepts fumeux ne devraient pas nous faire oublier que l'intégration est d'abord et avant tout un rapport de force. En se référant à la loi du nombre qu'énonce Rémi Girard dans Le déclin de l'Empire américain, Rioux reprend à son compte cette idée que « l'histoire n'est pas une science morale. Le bon droit, la compassion, la justice sont des notions étrangères à l'histoire. » Gérard Bouchard, dans « Réveiller la ferveur québécoise », reprend les mots de René Lévesque et nous invite à être « quelque chose comme un grand peuple ». S'il cède un instant à voir dans le pari de la grandeur le nouveau rêve qui devrait nous inviter au dépassement, à l'exaltation de la réussite, à nous projeter vers l'avant en vainqueur, il ne manque pas de donner un contenu à tous ces mots. Cela ne nous tenterait pas d'ériger une société qui se signalerait par son capital de vertu civique? Qui mettrait un soin particulier à réduire la pauvreté, tout en excellant dans ses affaires, à voir dans ses minorités et ses immigrants des alliés plutôt que des suspects? C'est aussi à cette grandeur que nous convie Émilie Nicolas pour contrer la stupidité, l'absence de langage, la mentalité de troupeau et la force brute, de ces rhinocéros que décrit Ionesco et que nous risquons de devenir si nous n'opposons pas à la violence politique des empires et de leurs sujets le droit de tous les êtres improductifs, marginaux, étrangers qui semblent d'abord ébranler le tissu social, mais qui en fait l'assouplissent, l'empêchent de se scléroser. Un être parfaitement intégré à ce monde est sans le savoir complice de sa propre destruction. Si nous ne défendons pas tous ces êtres que le règne de la force broie, les woke, les antiracistes, les personnes trans, les féministes, les scientifiques, les travailleurs précaires, tout le peuple palestinien, il est vain de penser, écrit Nicolas, que quelqu'un nous défendra, que nous serons épargnés lorsque notre tour viendra. Qu'est-ce que la grandeur, qu'est-ce que la culture, sinon la reconnaissance que nul ne peut échapper à sa faiblesse, à la loi du nombre sans le souci de l'autre. N'en déplaise aux anthropologues et historiens encore darwinistes, la prochaine étape de guérison, de maturité collective, écrit Nicolas, c'est d'assumer qu'il n'y a rien de honteux à être un petit peuple. Je ne crois pas, comme le pense Nicolas, que René Lévesque choisirait aujourd'hui d'autres mots pour dire sa fierté d'être Québécois, car s'il s'avançait aussi prudemment, aussi humblement, vers la grandeur, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. C'est que le démocrate et ancien correspondant de guerre se méfiait des grands mots au service de la politique. Simone Weil avait bien vu, dès 1936, que certains mots conduisaient au fascisme. Les mots de dignité et d'honneur sont peut-être aujourd'hui les plus meurtriers du vocabulaire. Pour Lévesque comme pour Bouchard, le pari de l'indépendance, c'était le pari de la grandeur qui misait non pas sur le pouvoir intégrateur de la force, mais sur celui de la culture, que Nicolas définit comme « notre humanité en partage ». Rioux, qui reconnaît lui aussi l'importance, pour intégrer d'avoir confiance en sa culture, semble associer la culture à celle des nations fortes, qui intègrent rapidement et facilement alors que les nations faibles y parviennent difficilement quand elles ne se font pas elles-mêmes assimiler. Peu importe les états d'âme. Faut-il rappeler que les nations fortes passent plus facilement de l'intégration au fascisme que les petites nations, lorsqu'elles ne sont pas contaminées par les grandes, résistent mieux, dit Nicolas, aux sirènes politiques de la violence. Voilà pourquoi Bouchard ne peut dissocier la grandeur du peuple de la petitesse de la nation. Donnons raison à René Lévesque. Nous sommes une petite nation, mais aussi un grand peuple. Bouchard a raison, mais je maintiendrai ce « peut-être quelque chose comme » cette petite gêne, ces trois cailloux dans le soulier de qui marche vers la grandeur. Dans « Indépendance, 1972 », Pierre Vadeboncœur écrivait que « ce peuple ne ressemble guère à d'autres, si ce n'est par emprunt. Je crois que s'il vient à réussir, il restera d'abord comme le témoin de l'inassimilation et persistera à ne pas faire les choses comme les autres, à les faire plus mal ou mieux que d'autres dépassant par un côté simplement humain la hauteur avantageuse et risquée d'autres peuples. » Il me semble que cette phrase peut réconcilier tous ceux et celles qui croient au Québec, qui croient que le Québec ne pourra être libre qu'en résistant à la loi du plus fort. C'était « La force ou la grandeur », un texte d'Yvon Rivard paru le 15 février 2025 dans Le Devoir.